1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Ben ouais, toi?
Ouais, très bien.
Bon, c'est cool.
Bon, je prends la main cette semaine.
Ouais.
On part à la rencontre d'une personnalité.
Ouais.
C'est pas vraiment un portrait, je vais plutôt lui donner la parole.
Ah, tu es allé l'interviewer?
Pas moi directement, mais disons que je l'ai beaucoup écouté au travers de... Parce qu'il donne pas mal d'interviews, de conférences. Et ben, ce que je te propose, on commence par un petit digest. Et après... Je te le présenterai plus précisément, mais on l'écoute d'abord et en fait ça dure 2 minutes et on va parcourir un peu tous les sujets qui l'intéressent et qu'on développera à la suite de l'émission. Ok,
allez.
C'est parti.
On croit que l'intelligence artificielle est intelligente alors que c'est essentiellement... des automatismes améliorés. La question qui se pose, c'est est-ce qu'un réseau de neurones est intelligent ? On a tendance à faire une confusion entre les systèmes qui paraissent ultra performants et donc intelligents parce qu'ils font appel à une immense quantité de mémoire et de véritables systèmes intelligents qui sont capables de s'adapter à une information complexe. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ça n'existe pas. Ce que j'ai compris, à force de faire de l'intelligence artificielle, ce que j'ai compris sur le tard, parce qu'au départ j'étais très matérialiste, c'est que la vraie intelligence a besoin de la conscience. Et sans conscience, on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas, par exemple, développer par soi-même une intention. Il faut arrêter de rejeter d'un revers de main toutes les expériences, y compris scientifiques, qui ont été faites depuis des décennies, qui démontrent ces propriétés extraordinaires de la conscience. Il n'y a que la mauvaise foi d'un zététicien ou d'un scientiste qui consiste à dire on a triché ou je ne sais quoi. C'est pas la science qui est vraiment mise en cause là-dedans, c'est le scientisme. Le scientisme n'est pas de la science. Le scientisme, c'est un système qui gère la science, mais qui est imbibé par une idéologie matérialiste qui aujourd'hui est reconnaissable comme complètement erronée. En réalité, les preuves, on les a depuis des décennies. C'est prouvé expérimentalement, c'est prouvé par des témoignages. On a les modèles de compréhension qu'il faut pour comprendre pourquoi la conscience n'est pas le produit du cerveau. Donc on a absolument tout. Si on fait des méta-analyses, des expériences sur la vision du futur proche, on a genre une chance sur 10 milliards que ces résultats soient dus au hasard. Il faut d'abord changer le système de croyance avant d'aboutir à la preuve et pas faire l'inverse. Parce que justement, notre réalité commune, notre réalité individuelle et notre réalité collective est construite par la conscience. Et c'est ça qui engendre notre futur. Ça, c'est facile à comprendre lorsqu'on adopte le modèle de flexibilité de l'espace-temps, de double causalité dont je parle dans tous mes écrits.
Bon, okay.
Est-ce que tu le connais ?
Non, je ne le connais pas. Qui okay. est ce monsieur ?
Alors, il s'appelle Philippe Guillemant.
Ouais.
C'est un scientifique français qui d'abord a été ingénieur, docteur en physique, Il a travaillé pour le CNRS sur les théories de l'information, la modélisation de systèmes complexes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est... il a fait un certain nombre de publications dans des revues scientifiques qui... On a cherché... Parce que forcément, il dérange. Il remet en question les dogmes scientifiques.
C'est ça qui est intéressant. Quoi.
Exactement. C'est pour ça que je voulais... qu'on le fasse entendre. Ces publications scientifiques, certains ont essayé de les démonter, mais finalement, n'y sont pas véritablement parvenus, parce que justement, ils les cadrent vachement. Par contre, de plus en plus, depuis les années 2000-2010, on l'entend faire des conférences, écrire des bouquins, où là, ce qu'il propose est considéré comme beaucoup plus spéculatif, mais on va l'écouter plus en détail pour mieux comprendre en fait de quoi il retourne dans ses écrits. Donc il est intéressant parce qu'il est à la fois dans ses publications scientifiques rigoureux, donc il est difficile à remettre en question, et en même temps dans ses conférences et dans ses écrits, ses bouquins qui relèvent pas précisément du domaine scientifique, il est beaucoup plus aventureux. Et du coup, il fait se rejoindre le monde de la science et celui de l'esprit, on va dire. Donc, je te propose 20 minutes de son, ces différentes interventions que j'ai recoupées un peu pour essayer de tirer un peu la substance de ce sur quoi il travaille.
Ok, allons-y.
On est parti.
Ouais.
Le problème est que la physique qui est un peu la reine de la science, si on peut dire, oui, depuis plusieurs siècles, depuis Descartes, depuis le XVIIe siècle, la science est rentrée dans le mécanicisme. En fait, le mécanicisme est apparu plutôt au XVIIIe, hein. Et les progrès technologiques et cette révolution de la société qui a conduit à tout ce qu'on sait, toute cette technologie, etc., a fortement valorisé la science qui en est à l'origine, et c'est ainsi que le mécanicisme s'est imposé et a imposé en même temps ses fondements matérialistes. En réalité, il n'y a pas de lien direct entre le mécanicisme, c'est-à-dire l'idée que tout est mécanique, et la matérialité. En réalité, il n'y a pas de lien direct. Et c'est de là que est venue l'erreur fondamentale qui fait que nous pensons le monde d'une manière erronée. On pense le monde d'une manière erronée parce qu'on pense que le monde est fait de ce qui apparaît. Et on pense que le monde est fait de matière, d'espace et de temps qui s'écoule. Ça, c'est une apparence. Or, depuis quand la science se met à confondre l'apparence et le réel ? Aujourd'hui, on a fait suffisamment de progrès en physique même pour comprendre que la raison pour laquelle la physique est en crise depuis des décennies vient du fait qu'on a confondu le réel et la réalité étant l'apparence que l'on perçoit, et le réel étant composé de quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà. Et donc le matérialisme est en train de s'effondrer, il prend l'eau de toutes parts, le problème étant que notre éducation ne s'est pas adaptée à ce mouvement et que nous pensons toujours le monde d'une façon erronée. Notre réalité que l'on a l'impression de vivre n'est pas non plus réelle, voilà, c'est ça l'idée. Et donc tout se passe comme si on était en train de jouer un rôle dans un film qui est déjà gravé et dont la tête de lecture représente le présent, alors qu'en réalité, si on oublie cette tête de lecture, tout est déjà là, hein. Donc voilà, première façon de voir les choses. Et alors comment est-ce qu'on visualise le fait que le futur puisse changer? Eh bien, ce fameux tunnel invisible, il suffit de le considérer comme étant plongé à l'intérieur d'un océan d'énergie, ou flottant à la surface d'un océan où il y a des vagues, et donc vous imaginez un tunnel qui flotte à la surface d'un océan, et il suffit que ce tunnel soit flexible pour comprendre que la forme de ce tunnel peut évoluer, et donc pour comprendre que notre futur puisse changer. Voilà, ça c'est la meilleure métaphore, la plus proche de la physique mainstream que l'on peut utiliser pour essayer de se représenter le fait que notre futur est déjà là, mais qu'on peut conserver un libre arbitre parce que notre futur peut changer, parce qu'il y a l'influence du vide, il y a l'influence des vibrations du vide, il y a l'influence de cet océan d'énergie, il y a l'influence de cette énergie du vide sur notre réalité. Première façon. La deuxième façon qui correspond plus à une réalité vécue individuellement, et c'est de faire appel à la notion de multivers et de dire que nous ne vivons pas dans un univers, mais dans un multivers de possibilités, c'est-à-dire que nous n'avons pas un futur devant nous, mais une multitude de futurs potentiels devant nous, mais que à tout moment, il y a un futur qui est déjà tracé à la manière du tracé d'un GPS. C'est-à-dire que lorsque vous, par exemple, vous traversez la France en voiture, vous avez une carte de France. Cette carte de France, vous pouvez, grâce à cette carte de France, tracer toutes les routes que vous pouvez emprunter en tant que touriste pour aller d'une ville à une autre. Et ça fabrique un arbre de potentialité. Et à un moment donné, vous allez emprunter la route qui correspond au tracé GPS, mais ce tracé GPS peut changer parce que vous avez la possibilité d'en changer la destination ou parce que vous avez la possibilité de ne pas faire ce que dit le tracé. Et dans ce cas-là, le tracé est recalculé. Et donc ça, c'est une très bonne manière aussi de se représenter l'espace-temps futur. Donc c'est de dire au niveau individuel, donc là on n'est plus sur des changements continus, mais on est sur des changements discontinus. Le futur peut changer de manière discontinue de deux manières, soit que on ne fait pas ce qui est prévu par l'univers, mais l'univers recalcule, soit on modifie carrément la destination. Donc on a de façon tout à fait rationnelle. La première façon est plus adaptée à une vision collective d'un futur collectif et la deuxième façon est plus adaptée à la vision d'un futur individuel. Voilà comment on peut se représenter la possibilité que le futur puisse changer et en même temps la possibilité que le futur puisse influencer sur le présent parce que vous comprenez bien que si on change la destination, eh bien, ça va changer ce qu'il était prévu qu'on vive. Donc, ça va forcément influencer le présent ou en tout cas le futur proche. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je réinterprète toute la physique en partant du concept de conscience plutôt que du concept de matière. Et ça me permet de retrouver une physique intuitive et de comprendre beaucoup mieux tous les résultats. Il faut remettre en question les notions d'espace, de temps et de matière, ce que fait la physique. Et il faudrait remplacer ça par les notions d'information, de vibration et d'énergie. De dire même peut-être tout est vibration, pour faire simple. Donc la conscience serait une structure vibratoire. La physique, le jour où elle acceptera l'idée que la conscience est comme une sorte de cinquième, sixième, septième élément fondamental, beaucoup plus fondamental que les autres, considérera la matière comme une cristallisation de la conscience. D'accord ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de différence au fond entre matière et conscience, simplement. La matière, c'est la conscience cristallisée, figée, et la conscience, c'est la matière réveillée. C'est-à-dire, on peut comprendre ça en sortant de notre conception linéaire du temps. C'est-à-dire que nous vivons pas dans le temps présent, nous sommes sur des lignes de temps. La capacité de changer de ligne de temps, c'est quelque chose qui appartient à la conscience. le fait de rester sur une ligne de temps, c'est quelque chose qui appartient à la matière. Lorsque la conscience, elle est sur une ligne de temps figée, elle doit essayer de modifier cette ligne de temps. Lorsque la, voilà, c'est-à-dire que la conscience, elle est liée à l'information quantique. L'information quantique, c'est la superposition d'états ou de trajectoires. Et la différence entre matière et conscience doit être considérée donc en dehors du temps de cette manière, c'est-à-dire que la conscience, elle est faite pour gérer de multiples potentialités, alors que la matière, elle est le résultat d'une potentialité gravée, bien gravée dans la réalité. Il y a une façon de mieux comprendre ça, c'est de dire que finalement, en étant très logique, hein, ça vos auditeurs devraient comprendre. Notre réalité, elle est composée de trois choses. Elle est composée d'objets, de matière, qui sont faits de matière. Elle est composée d'un espace qui contient ces objets, en apparence, hein, et elle est composée de conscience des objets. Voilà, conscience des objets. Or, là, vous avez deux choses qui sont incompatibles, ou en tout cas, une chose qui sert à rien. C'est l'espace, parce qu'à partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous n'avez pas besoin de l'espace, puisque c'est la conscience des objets qui apporte l'espace. D'accord ? C'est la conscience des objets qui crée l'espace, donc vous n'avez pas besoin de cet espace. Et les physiciens sont en train de détruire, ils ont même complètement détruit la notion d'espace, puisque d'après la physique, l'espace, il est courbé, il est troué, il est pixelisé, il est en vibration et il est non local. Autant dire que l'espace n'est plus de l'espace. En plus de ça, vous avez le modèle holographique, pas quelque chose de complètement établi en physique, mais quelque chose qui fascine énormément les physiciens, qui nous dit que finalement, la réalité pourrait très bien être le résultat d'une construction à partir d'un réel qui pourrait être composé d'informations qui sont en surface. Le principe holographique nous dit qu'à partir de ces informations qui correspondraient par exemple aux surfaces horizon de notre univers, quelque chose construirait l'appréhension en volume de ce réel et qu'on appellerait la réalité. Et qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ben évidemment, c'est la conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience qui transforme une réalité objective qui pourrait très bien se résumer à de l'information qui se trouverait en surface, en une réalité apparente qui est composée d'espace, de temps et de matière. Donc ça, c'est un concept hautement philosophique qui existait déjà en philosophie depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Mais cet idéalisme, il revient en force aujourd'hui grâce à la physique, parce que la physique, en force de remettre en question la notion d'espace, de temps et même de matière, nous conduit directement vers le concept qu'avaient déjà les philosophes idéalistes à l'époque. Et il y a aujourd'hui un philosophe qui s'appelle Bernardo Kastrup, philosophe d'origine néerlandaise, anglo-saxon, qui a écrit beaucoup de livres qui sont lus par des physiciens, notamment. Il y a des dialogues avec des physiciens, donc on peut considérer qu'il est mainstream et qui nous propose d'adopter cette nouvelle tendance qui est post-matérialiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas matérialiste du tout, c'est quelqu'un qui est entré dans la spiritualité de ce fait par son idéalisme qu'il appelle l'idéalisme analytique, et lui aussi remet en question cette apparence de réalité et nous conduit vers la spiritualité d'une façon extrêmement logique. Nous ne sommes pas nos corps, nous ne sommes pas notre personnalité, nous ne sommes pas cette personne qui est, on va dire, incarnée dans une réalité, et nous sommes bien plus que ça, nous sommes différents de cela. C'est un peu comme le confondre, nous sommes des acteurs de la réalité, nous sommes des joueurs, hein. Nous sommes plutôt des jouets, en fait. Le véritable créateur de qui nous sommes, le véritable être, il est différent de nous. Nous ne sommes pas réellement ni notre ego, ni notre personnalité, etc. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes dans une dans un rôle, voilà. Bon, c'est quelque chose qui il y a une réalité extérieure et qui est véritablement maître du sens de notre vie. Alors ça, c'est quelque chose. Ça nous fait plonger directement dans la spiritualité, bien sûr. Et je suis pas en train de prôner la croyance en Dieu, bien qu'on puisse comprendre l'origine des religions comme étant lié à cette prise de conscience, c'est-à-dire nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes... Alors pour le comprendre par la science, il faut faire appel aux théories de l'univers conjugué, par exemple, mais il y a d'autres... Il faut faire appel à l'idée que d'une manière générale, c'est le vide qui agit sur notre réalité, et que ce vide, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, et il n'est pas possible de se le représenter... grâce à ce que pourrait nous dire de la physique de ce vide, parce que la physique ne sait pas le représenter autrement que comme une espèce d'océan d'énergie, mais on ne connaît pas sa structure. Toujours est-il qu'il y a une partie de nous-mêmes qui se trouve dans cet océan d'énergie. Alors, on peut considérer que cette partie de nous-mêmes existe telle que nous existons nous-mêmes, mais dans un au-delà, qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle l'univers miroir, ou l'univers conjugué, ou l'anti-univers, ou l'univers jumeau, ou encore le monde imaginal qui serait lié au vide, ou encore le monde des idées de Platon qui serait lié au vide là aussi. Donc il existerait un autre monde qui n'est pas du tout l'espace-temps, mais qui pourrait influer sur l'espace-temps, et dans lequel nous aurions notre véritable identité. Et c'est notre véritable identité qui aurait voulu notre incarnation dans l'espace-temps pour jouer un rôle. Et tant que mais si on prend au sérieux ce rôle, si on considère que nous sommes nous-mêmes la personne incarnée, on se trompe, et là on tombe dans les voies de l'ego, etc. Et là on se plante. Alors que si on sait que nous ne sommes pas nous-mêmes et que nous sommes plus grands que soi, à ce moment-là on peut tenter de se connecter à qui nous sommes, et c'est là que démarre la spiritualité, c'est-à-dire à partir du moment où on se connecte à notre être profond, on peut recevoir une guidance. Et cette guidance, elle est d'autant plus intéressante qu'elle nous apporte de la joie, parce que la joie, c'est quelque chose, comme le disait Spinoza, c'est quelque chose qui transcende le cerveau, c'est-à-dire que c'est la joie qui oriente nos pensées, ce ne sont pas nos pensées qui nous mettent en joie, c'est plutôt la joie qui oriente nos pensées, donc la joie est quelque chose de premier. Et donc c'est la joie, c'est une sorte d'énergie qui nous vient du vide, en fait, hein. C'est lorsqu'on ressent cette joie parce qu'on s'est déconditionné. Il faut s'être déconditionné, c'est très important. Il faut avoir lâché prise, il faut avoir confiance, il faut s'être détaché de toutes les valeurs de ce monde illusoire. Et donc là, on peut ressentir la joie, et en même temps qu'on ressent la joie, on ressent l'information sur qui on est, et de suite, là, on sait ce qu'on doit faire. C'est un peu comme si on avait reçu une guidance. Et là, quand on reçoit cette guidance, là, on peut être assuré que le futur correspondant, il existe réellement. Parce que c'est pas de nous que ça vient, c'est de notre être intérieur, c'est de notre être profond, et notre être profond, lui, il connaît notre futur. Enfin, en tout cas, il connaît nos futurs potentiels, et il est capable de nous indiquer quelle est notre voie. Et lui, quand il nous indique quelle est notre voie et que c'est validé par la joie, on peut être assuré que ce futur existe. Et alors, pour peu qu'on l'entretienne sous forme de foi, qu'on entretienne cette vibration, eh bien là, on est capable de rentrer dans la magie de la vie, on est capable de vivre ce qu'on appelle des phénomènes de synchronicité qui vont nous amener à destination. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas le mental, c'est pas l'ego qui définit par sa volonté ce qui va nous arriver dans le futur. Non, c'est pas ça. On capte l'information sur qui on est Et dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, oui, là, on a l'assurance qu'il y a une véritable possibilité. Et là, pour peu qu'on entretienne cette vibration, eh bien là, on va se réaliser. On est tellement invalidé par nos croyances limitantes que c'est quand même important.
Ce voyage, Ghislain, bah, trop
en
intense.
Fait, tu aurais pu nous prévenir qu'il fallait prendre des drogues avant. Parce que je pense que quand tu es pas dans ton état normal, en fait, tu pars vraiment avec lui, il t'embarque, etc. Ça a l'air d'être passionnant, c'est hyper poétique, moi j'adore.
Ouais.
Mais dans ton état normal, c'est un peu dur, quoi.
Tu trouves, hein?
Ouais, je trouve.
Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse chez lui... Alors, il y a beaucoup de... Il spécule beaucoup, hein, c'est de par l'approche qu'il a. Parce qu'au départ, c'est vraiment un scientifique, hein, un ingénieur. Et il le dit lui-même, hein, au départ, il était extrêmement matérialiste. Et en fait, il a mis au point une théorie, qui est la théorie de la double causalité. C'est-à-dire que le futur existe déjà, le passé aussi. Et en fait, les deux, possiblement, peuvent influencer le présent. C'est une façon... quand même peut-être outrancière de le résumer, mais en gros, l'idée, c'est ça. Mmh. Et que rien n'est figé pour autant, c'est-à-dire que et le futur et le passé sont modifiables. À partir de là, ça ouvre un champ de possibilités qui est énorme, qui est incroyable.
Mais oui, surtout si tu prends de l'épice, tu vois, où là tu peux voir tous les chemins du futur et tu peux choisir celui qui te convient, tu vois.
Si tu veux, on peut le voir comme ça. Mais en même temps, là où il est intéressant, et je pense que c'est des choses qui, dans ton parcours, à mon avis, t'intéressent, c'est-à-dire que tout ce qui tourne aujourd'hui autour de ce qu'on appelle vulgairement le développement personnel.
Oui, bien sûr. Oui, ça résonne beaucoup.
Bah,
hein,
oui,
ça,
complètement.
Ça m'a fait penser à plein d'auteurs que j'ai lus, etc.
Forcément.
Bien sûr.
Et lui, il tente, même si par exemple, il est extrêmement critique sur tout ce qui est New Age, etc. Parce que, mine de rien, c'est pas, on claque pas dans les doigts et on devient pas qui on est comme ça du jour au lendemain. Hein.
Non, non, mais, par contre, développement personnel dit pas ça non
voilà,
plus. Hein.
parfois si, mais c'est là où il y a tout à boire et à manger dans le ouais. développement personnel. Mais en tous les cas, je trouve ça intéressant parce qu'au moins, il y a une tentative de jonction entre... Ben, le domaine scientifique, qu'il remet en question, et la philosophie et la dimension spirituelle. Donc voilà, j'ai proposé ça, chacun en pensera ce qu'il en voudra, mais en tous les cas, je pense que c'est vraiment, ça fait partie des personnages qui peut être intéressant, enfin c'est intéressant d'aller écouter, de s'ouvrir et d'avoir un regard critique aussi sur ce qu'il peut proposer. Dans
oui,
tous les cas,
sûr.
il ouvre un champ des possibles, quoi.
C'est ça, il propose des choses qu'on nous propose pas forcément ailleurs et qui peuvent être intéressantes, qui peuvent
nous
emmener
explorer.
Dans des choses super intéressantes.
Exactement. On s'en tient là ?
Allez, d'accord.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.